Imaginez un monde qui va plus vite que notre capacité à décider. C'est un constat un peu angoissant qui est fait en préface de notre source du jour.
Oui, et c'est le point de départ de toute la réflexion. Exactement. Et c'est de là qu'on part pour explorer une feuille de route qui est proposée pour le Maroc. Une feuille de route qui mise tout sur deux concepts vraiment puissants. L'intelligence économique et bien sûr l'intelligence artificielle. Et l'enjeu, il est fondamental. Ce n'est pas juste une question de se moderniser, d'avoir de nouveaux outils. L'idée, c'est vraiment de changer de posture.
De passer de spectateur à acteur, c'est ça?
C'est exactement ça. Passer d'un Maroc qui, disons, réagit à l'économie mondiale, à un Maroc qui anticipe, qui façonne les choses. La grande thèse du livre, c'est que la puissance aujourd'hui, elle n'est plus seulement dans les usines, les ressources.
Elle est dans l'information?
Elle est dans la maîtrise de l'information stratégique.
Tout à fait. Cette idée de puissance informationnelle, c'est vraiment le cœur de notre sujet aujourd'hui. On va voir comment le Maroc a potentiellement toutes les cartes en main, mais bah, il ne les joue pas encore de manière très coordonnée.
Alors, pour y voir plus clair, on va organiser notre discussion en trois temps. D'abord, le diagnostic, pourquoi est-ce qu'on parle d'un chantier inachevé? Ensuite, le catalyseur, ce qui vient tout changer, l'IA. Et enfin, la vision, à quoi pourrait ressembler un modèle marocain d'intelligence augmentée? Un parcours qui nous emmène vraiment au cœur des enjeux de souveraineté pour n'importe quelle nation, en fait. Commençons donc par ce diagnostic. Pour décrire la situation, l'auteur utilise une métaphore que je trouve très, très juste, celle de la mosaïque.
Ah oui, elle est excellente. On a de très belles pièces, des institutions brillantes, des experts, mais quand on prend du recul, ça ne forme pas une image cohérente. Il manque l'architecte, quoi.
C'est ça qui est paradoxal. Le problème, ce n'est pas le manque de matières premières. Le talent, les données, les analyses, tout ça existe. C'est un problème de plomberie, de système.
Et la source identifie des blocages très clairs.
Oui, trois blocages principaux. Le premier, c'est la culture du cloisonnement. Chaque ministère, chaque grande agence est une forteresse. On protège son information.
Donc l'info ne circule pas horizontalement.
Très peu. Ce qui nous amène au deuxième blocage, qui en découle directement, la rétention d'informations. C'est décrit comme un réflexe. Garder une info pour soi, c'est perçu comme du pouvoir. Je sais quelque chose que tu ne sais pas.
Voilà, c'est l'antithèse absolue de l'intelligence économique qui est un sport d'équipe. Et le troisième obstacle.
C'est le chef d'orchestre manquant. Il n'y a pas de pilote central. Des initiatives remarquables naissent, mais elles sont éparpillées. Personne n'est là pour donner le cap national. Du coup, les belles pièces de la mosaïque, ben, elles restent des pièces détachées.
Pour rendre ça plus concret, le livre s'appuie sur trois cas d'études. On peut commencer par le premier de la classe, non? Le ministère de l'économie et des finances.
Oui, le laboratoire stratégique, comme il est appelé. Et c'est vrai, on y trouve des directions d'élite, comme la DEPF pour les prévisions macroéconomiques.
Ou la DGI, la Direction générale des impôts, qui est déjà en pointe sur l'IA pour la fraude fiscale, si je ne me trompe pas.
C'est tout à fait ça. Mais, et c'est là que le bât blesse, cette excellence fonctionne en vase clos. C'est une Formule 1 qui tourne sur un circuit privé.
Ah oui, l'image est parlante. C'est-à-dire que leurs analyses, même si elles sont stratégiques pour d'autres secteurs, elles ne sortent pas du ministère.
Très peu. Les analyses de la 2PF sur l'eau ou l'industrie, par exemple, elles irriguent très peu les autres ministères concernés. C'est un îlot de performance dans un archipel qui n'est pas connecté.
C'est fascinant et un peu frustrant en même temps. Pourquoi?
C'est culturel. Une rivalité entre ministères, c'est un mélange. Il y a une culture historique de la confidentialité, très forte dans un ministère régalien. Il y a aussi un manque de protocole de partage. Mais le fond du problème, il est culturel. On n'a pas encore ce réflexe de voir l'information publique comme un bien stratégique commun.
D'accord. Passons au deuxième cas, le tourisme. Lui, il illustre la non-coordination.
Parfaitement. Là, on a trois organismes, tous très bons. L'Observatoire qui analyse les données, l'OMT qui fait un travail d'influence et de marketing formidable, et la SMIT pour l'investissement.
Exactement. Chacun est excellent dans son couloir, mais il fonctionne en parallèle, pas toujours en synergie. Ce qui soulève une question, c'est quelle serait leur force de frappe s'ils agissaient comme un seul système nerveux, unifié? Le potentiel est vertigineux. Imaginez, l'observatoire détecte une nouvelle tendance. L'info remonte en temps réel à l'ONMT qui adapte sa com et à la SMID qui oriente les investisseurs. Le système entier devient plus agile, plus intelligent. On passe d'une addition de performance à une multiplication de l'impact.
C'est tout l'enjeu.
Le troisième cas est peut-être le plus parlant, celui de l'artisanat. L'exemple de la vulnérabilité stratégique. Oui, là, c'est criant. Le Maroc a un trésor, un savoir-faire artisanal unique. Mais ce trésor est exposé. Il est mal protégé. L'exemple des babouches, copiées et produites à bas coût en Asie, est emblématique.
Et l'impact est double, j'imagine. Il y a la perte économique directe, bien sûr, mais il y a aussi la perte symbolique. C'est la marque Maroc qui est diluée. C'est un pan du patrimoine immatériel qui est attaqué. Et ça, c'est le symptôme d'une absence de veille active. Qui surveille? Qui protège? On subit. Donc si je résume ce diagnostic, on a un système plein de potentiel, mais...
fragmenté.
Qui produit beaucoup d'infos, mais peu d'intelligence collective.
C'est le paradoxe marocain, oui.
Et sur cette structure déjà un peu fragile, arrive une vague de fond qui change tout.
L'intelligence artificielle.
Absolument. L'IA, la source le dit bien, ce n'est pas un gadget. C'est une rupture cognitive. Elle agit comme un miroir grossissant.
C'est-à-dire qu'elle rend les failles, les silos, encore plus dangereux.
Exactement. Mais en même temps, et c'est ça qui est crucial, elle représente une chance inouïe de sauter des étapes, de combler certains retards structurels. L'IA ne fait pas qu'améliorer l'intelligence économique, elle la redéfinit.
Comment ça, concrètement?
Prenons les trois piliers de l'IE. D'abord, la veille. On passe de l'analyse humaine, où un expert lit quelques centaines de sources, à la prédiction automatisée. Un agent IA peut scanner des millions de sources, 24 heures sur 24, pour détecter des signaux faibles.
Des choses invisibles pour un cerveau humain.
Totalement. Une nouvelle technologie à l'autre bout du monde qui pourrait menacer une industrie clé au Maroc, par exemple. D'accord. Deuxième pilier, la sécurité économique. J'imagine que l'IA joue sur les deux tableaux, hein, la menace et la défense.
C'est ça. L'IA industrialise les menaces, les deepfakes, les cyberattaques. Mais elle fournit aussi les armes pour se défendre. Une détection des menaces en temps réel, bien plus efficace.
Et le troisième pilier, l'influence, qui est peut-être le plus important aujourd'hui.
La source utilise un terme très fort, elle devient algorithmique. La bataille pour l'image d'un pays se joue sur les grandes plateformes. Et là, ce sont les algorithmes qui décident de ce qui est visible et ce qui ne l'est pas.
C'est vertigineux. Ça veut dire que l'attractivité du Maroc peut être influencée par des lignées de code écrites à des milliers de kilomètres?
C'est tout l'enjeu de la souveraineté numérique. Pour les institutions, le potentiel est immense. On parle de gestion prédictive de l'eau, un enjeu de sécurité nationale. Pour les entreprises, par contre, le message de l'ouvrage semble plus brutal.
Le message est un ultimatum, oui. Compétitivité ou disparition. Le grand risque, c'est de voir se développer ce que la source appelle une économie zombifiée.
Attendez, économie zombifiée? L'image est terrible. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire des entreprises, notamment les 95% de PME, qui sont l'épine dorsale de l'économie, qui tournent au ralenti.
Sans innover.
Juste pour survivre.
Parce qu'elles n'ont pas les moyens d'intégrer l'IA?
C'est ça. Pendant que sa concurrente internationale utilise l'IA pour optimiser sa logistique, anticiper la demande, l'entreprise marocaine devient plus lente, plus chère. Elle ne meurt pas tout de suite, elle se zombifie. Elle survit sans croissance et finit par se faire dévorer. L'IA n'est plus un luxe, c'est un facteur de production.
On a donc ce diagnostic et l'IA qui arrive comme un accélérateur, pour le meilleur et pour le pire. Ça peut donner le vertige. Est-ce que la source propose une sortie par le haut, une feuille de route?
Oui, et c'est la partie la plus constructive. La recommandation centrale est très claire. Le Maroc ne doit imiter personne, ni le modèle français, ni l'américain, ni le chinois.
Aucun.
Il doit inventer son propre modèle, hybride, cousu-main, adapté à sa culture.
Et sur quoi reposerait ce modèle marocain?
Sur quatre piliers. D'abord, il faut une doctrine nationale, un document clair qui dit « voici nos priorités, voici les menaces ». Voici qui fait quoi.
Des règles du jeu, quoi. D'accord, un cap.
Ensuite, le deuxième pilier, c'est la création d'une agence nationale d'intelligence économique, l'ANI. Mais attention, l'idée n'est pas de créer une nouvelle couche de bureaucratie.
Mais plutôt un hub, une tour de contrôle, agile.
Voilà, agile, transversale, avec un mandat interministériel fort pour faire circuler l'info. Le troisième pilier est particulièrement intéressant, la territorialisation.
Ça veut dire décentraliser l'intelligence économique?
Exactement, pour que ce ne soit pas qu'une affaire d'experts à Rabat et Casablanca. Chaque région a ses propres enjeux, chaque territoire doit avoir sa propre boussole.
Et le quatrième pilier, le socle de tout ça?
La souveraineté numérique assumée. Ça passe par des infrastructures, comme un cloud souverain, pour que les données stratégiques ne soient pas hébergées ailleurs. Mais ça va plus loin. Ça veut dire développer ses propres modèles d'IA, entraînés sur des données marocaines, pour des problématiques marocaines.
C'est faire de l'IA un instrument de souveraineté et pas de dépendance.
C'est tout l'enjeu.
Mais au fond, on peut construire les plus belles agences, les plus beaux clouds. Si la culture de la rétention d'infos persiste, rien ne changera. Le vrai mur, il est humain, non ?
Vous mettez le doigt sur le point le plus difficile et le plus crucial. La source est formelle. L'obstacle principal n'est ni technologique, ni financier. Il est culturel. Il faut une révolution culturelle. Une véritable révolution culturelle dans l'administration et les entreprises. Passer du secret au partage, de la méfiance à la collaboration. Et ça, ça passe par le capital humain, par la formation.
Mais pas n'importe quelle formation, j'imagine.
Non. Le livre insiste sur le besoin urgent de former des profils hybrides. Le Maroc a besoin de traducteurs, des gens qui comprennent à la fois la tech, la géopolitique, l'économie.
Des profils qui font le pont entre ces mondes qui ne se parlent pas.
C'est ça. La souveraineté future du Maroc ne reposera pas sur sa capacité à acheter de l'intelligence, mais à la produire elle-même. Et pour ça, il faut former et retenir ses talents.
Alors, en guise de synthèse, l'idée qui ressort, c'est que le Maroc est à un rendez-vous avec l'histoire. Le mariage de l'intelligence économique et de l'IA, ce n'est plus une option. C'est une boussole nationale pour naviguer dans ce monde complexe.
Le choix est assez binaire, oui. Soit on subit, soit on se donne les moyens de provoquer.
De commencer à provoquer les mutations mondiales au lieu de juste les subir. Et pour terminer, la source nous laisse avec une pensée assez provocatrice. Elle dit que la puissance au XXe siècle, on l'a mesurée aux infrastructures physiques. Les ports, les autoroutes, le hard power.
Le hard power, voilà. Mais la puissance au XXIe siècle, elle, se mesurera de plus en plus à la qualité des infrastructures informationnelle. La capacité d'une nation à collecter, analyser, protéger et valoriser la donnée. Donc le vrai défi pour le Maroc, ce n'est pas de savoir s'il peut devenir une des intelligences stratégiques du continent africain. C'est de savoir s'il osera penser et agir pour le devenir. Finalement, c'est un choix d'ambition.